Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté. Cette semaine de vacances, Podcasting vous emmène à la découverte de certains fromages du Sud-Ouest. Comment sont-ils fabriqués, par qui, mais surtout, que racontent-ils de leur territoire, des femmes et des hommes qui le composent? Cette série s'appelle Fromagine, elle est signée Mathilde Debar.
Pâte molle ou pâte dure, coulant ou fondant, sec ou crémeux, au poivre ou à l'ail, il y a autant de fromages que de goûts. Mais justement, qu'est-ce qui les rend si différents les uns des autres? Pourquoi ces particularités? Pourquoi ces particularismes même? Que disent-ils, ces patrimoines de notre région? Toutes ces questions, nous les avons posées à des professionnels de l'alimentation et des producteurs.
Je vous emmène à l'abbaye d'Échournac, en Dordogne. Antoine Dumont m'accueille au cœur de l'abbaye pour discuter du fromage fabriqué par les douces mains des religieuses, la Trappe Échournac.
Et je suis arrivé ici, on pourrait dire en quelque sorte que je suis rentré au monastère. C'est pas tout à fait le cas, mais un peu. Voilà, je suis rentré au monastère il y a un an et demi avec ma femme, Kitri. Et on est arrivé ici dans le cadre d'un projet à la fois familial et entrepreneurial, puisqu'on s'est associé avec la communauté des sœurs. Donc on a 22 associés qui sont des religieuses qui ont entre 29 et 97 ans. L'idée, c'était un peu de soulager les sœurs dans la gestion de cette entreprise de fromagerie qui est devenue une PME. Donc voilà, notre mission, c'est vraiment de coordonner et de gérer l'ensemble des activités économiques. Je dis ensemble des activités économiques parce qu'on fait du fromage, mais pas que. Mais on va en reparler tout à l'heure.
Alors justement, on va parler de ce fromage. Racontez-moi un petit peu l'histoire de ce fromage et comment on en est arrivé là.
En fait, c'est une histoire qui est assez amusante parce que ici, on est dans le Périgord et la tradition du Périgord, sur le plan culinaire, c'est plutôt une tradition charcutière. On n'est pas vraiment dans une terre de tradition fromagère. Alors, comment ça se fait qu'il y a un fromage qui débarque ici, qui plus est maintenant, est le plus vieux fromage du Périgord? En fait, il faut revenir à l'histoire de la terre. Ici, là, sous nos pieds, au moment où on se parle, il y a 120 mètres d'argile. Et donc, on a une terre qui retient énormément l'eau et qui a créé beaucoup de marécages, beaucoup d'étangs. Ici, autour des Chourniacs, donc on est au milieu de la forêt de la Double. Et ça a créé une zone assez insalubre. Et dans les années 1850-60, on meurt ici du paludisme. Alors on appelle ça les fièvres, ou autrement. Mais il y a beaucoup de gens qui meurent du paludisme. Et à ce moment-là, dans ces années-là, il y a un nouveau préfet qui vient d'être nommé et qui arrive de la région des Dombes, donc du côté de la Mayenne. Et il a, à ce moment-là, dans ses fonctions précédentes, il avait rencontré des moines cisterciens qui avaient asséché les marais. Et donc du coup, en arrivant ici, il se met en lien avec l'évêque local et il lui demande, il lui dit, mais est-ce que ce serait pas possible d'implanter une communauté de moines cisterciens pour assécher les marais ici? Ils se mettent d'accord et c'est comme ça qu'en 1868, il y a une communauté de moines qui arrive de l'abbaye de Notre-Dame de Port-Salut.
Oui, en Mayenne.
En Mayenne. Et donc ils arrivent ici avec pour mission d'assécher les marais. Et donc forcément, ils arrivent avec, quand on entend Port-Salut, on peut entendre fromage et c'est exactement ce qui se passe, puisque donc ils arrivent avec leurs connaissances fromagères. Et donc pendant 7 ans, ils mettent 7 ans à mettre fin au paludisme en travaillant avec tous les gens du coin. Ils construisent des digues, ils en cassent d'autres, ils replantent de la forêt et ils assèchent les marais. Voilà. Mais tout de suite en arrivant, ils lancent une exploitation avec une étable et puis une transformation du lait en fromage.
Il me semble qu'il y a un lieu aussi qui marque la fabrication, c'est la cave. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu plus de cette cave où est fabriqué le fromage, justement?
Alors, quand ils arrivent en 1868, il y a uniquement ce bâtiment qu'on vient de traverser, qui est une ancienne ferme périgourdine à colombage avec du torchis et des briques. Première chose qu'ils font, c'est de construire un four à briques. Et avec ce four à briques et la terre qu'on a ici, ils vont cuire des briques et ils vont construire trois des ailes du monastère, qui est juste là à côté, l'ancienne étable qu'on va aller voir, et puis le bâtiment de la fromagerie, avec ses caves. Donc qui sont en ces caves naturelles en pierre, voilà, qui datent des années 1870. Voilà. Et effectivement, une partie du secret du fromage réside dans la qualité de la cave. Et j'ai pour habitude de dire que notre fromagerie, c'est un peu comme un spa. Quand on va au spa, en général, on a une carte des soins. Et donc, voilà, on peut suivre tel ou tel soin. Et ben, en fait, pour nos fromages, c'est un peu pareil. Nous, on travaille avec des éleveurs qui sont rassemblés au sein d'une laiterie. Et cette laiterie, elle va nous apporter un lait caillé. Et c'est à partir de ce lait caillé, on appelle aussi un fromage en blanc, qu'on va pouvoir travailler. Donc, sur cette première étape de transformation du lait en lait caillé, pressé et moulé. Donc ça, c'est une étape qui dure quelques heures. Donc concrètement, le lait, il est collecté le lundi. Le mardi matin, il arrive à la laiterie. Et vers 7 heures, il démarre la chauffe, la mise en moule, le pressage. Et vers aux alentours de midi, entre midi et 14 heures, la caillebotte est réalisée. Elle est mise en cagette, elle part en camion et elle arrive chez nous le mercredi matin qui suit. À 8 heures. Et à partir du mercredi matin 8 heures, on va démarrer entre 2 et 4 semaines de travail. Et c'est là que démarre notre carte de soins. Donc comme dans un spa, il y a des bains. Dans un spa, on a des bains de bulles, on a des bains de boue, de ceci, de cela. Donc nous, pareil, nos fromages, on va les baigner, on va les tremper. Donc on imagine que forcément un peu dans le vin de noix, puisque c'est quand même voilà, une des typicités de ce fromage. Donc ça, c'est cette première étape. Et puis, dans une deuxième étape, on va s'occuper de leur croûtage. Comme au spa, on prend soin de sa peau. Voilà. Donc, on va les brosser, on va les frotter, on va leur appliquer un certain nombre de crèmes, de pommades, en tout cas de sauces secrètes, qui vont permettre au croûtage de se développer, qui va permettre au croûtage aussi de se protéger contre un certain nombre de moisissures qu'on n'a pas envie de voir arriver. Et puis qui va développer toute la dimension aromatique du fromage. Et puis ensuite, on va enchaîner sur un troisième soin qui va être pareil dans un spa aussi. On peut prendre soin de ses ongles, on peut prendre soin de sa peau, plutôt côté maquillage, make-up, etc. Et donc, nos fromages, on les passe en revue tous les jours. Et parfois, ils ont certaines aspérités ou en tout cas des défauts d'aspect qu'on n'a pas envie de voir, qui ne correspondent pas au cahier des charges qu'on s'est fixé. Alors du coup, on vient du bout du doigt ou avec un pinceau repasser un peu de caramel sur la texture de... Voilà, donc chaque semaine, on sort 6000 fromages de nos caves. Alors ça peut paraître énorme, mais en fait, c'est, voilà, par rapport à plein de fromageries, ça reste encore en tout cas un métier très artisanal. On passe en revue à la main chacun de ces fromages et puis on va venir corriger s'il y a besoin. Voilà. Et puis toujours comme dans un spa, quand on a fini tous ces soins, en général, on se pose sur une chaise longue. Et on sèche, on se repose, on se détend. Et ben nos fromages, c'est pareil. Ils sont dans une cave, après ces différents soins, où ils vont, en fonction de la température de la cave, du taux d'humidité, de la façon dont la croûte se développe, on va suivre ça, on va régler ça, et on va les laisser se reposer pour que justement l'arôme puisse se développer, que la croûte fasse son travail, que la pâte fasse son travail. Voilà, et donc... Les petites tomettes de 300 grammes, elles vont sortir de cave au bout de 2 semaines. Et puis nos tomes d'1,7 kg, plutôt au bout de 3 à 4 semaines.
Faites une trappe naturelle et une trappe à la liqueur de noix.
Alors en fait, donc en 1868, quand les moines sont arrivés, ils sont venus avec la recette du fromage trappes, parce qu'il y a différents monastères de cisterciens dans toute la France, et beaucoup ont fait du fromage. Et donc, du coup, il y a eu le trappe des Chourniac, nature, voilà, qui a été qui est un fromage, ce qu'on appelle à pâte pressée non cuite, qui a été lancé dans les années 1870, qui est une recette qu'on fait toujours. Voilà. Mais à la fin des années 90, les sœurs avaient décidé de confier cette étape de transformation du lait en lait caillé à un sous-traitant parce que c'était devenu trop lourd pour elles. Et donc elle s'est dit bah, c'est l'occasion d'inventer aussi une nouvelle recette, et on voudrait une recette typiquement périgourdine. Donc, quels sont les autres fruits, les autres arômes qu'on peut trouver ici en Dordogne. Et après de multiples essais, alors je crois qu'il y a eu des essais avec du vin blanc, de Bergerac, peut-être même de Montbazillac. Enfin bon, il y a eu plein de choses qui ont été testées. Et un jour, Sœur Jeanne d'Arc a l'idée de se dire, mais attends, en fait, avec la liqueur de noix, on pourrait peut-être essayer de mixer quelque chose. Voilà. Et donc ça, c'est dans les années 98. Et voilà, et en 99, après de multiples essais, voilà, la recette se peaufine. Et il y a aujourd'hui ce fromage qu'on connaît, donc il y a une vingtaine d'années maintenant.
Et donc ce fromage, où est-ce qu'on peut le retrouver? Il est en vente dans les grandes surfaces, un petit peu partout en France ou simplement dans la région?
Alors ce fromage, d'abord il a été distribué très localement. Et puis au fur et à mesure du temps, maintenant on le retrouve dans une grande partie de la France. Voilà, on peut le retrouver souvent chez son fromager crémier au marché. On peut le retrouver dans certains restaurants aussi. et puis on peut le retrouver également en grande distribution.
Qu'est-ce que ce fromage représente pour la ville, ses habitants ici? Est-ce que c'est un emblème?
Je crois que ce qui marque le plus les gens d'ici, au-delà du fromage, c'est surtout l'histoire que je vous partageais de ces moines qui sont arrivés et qui ont beaucoup travaillé avec les gens d'ici, du village. Il faut savoir que les moines sont partis en 1910 et les sœurs sont arrivées en 1923. Et donc c'est toujours les mêmes sœurs, enfin la même communauté de sœurs depuis 1923. Et entre 1910 et 1923, en fait, c'est les habitants du village qui ont repris la fromagerie et qui ont continué à faire tourner la fromagerie. Donc je crois que les gens d'ici, de la terre... Oui, il y avait plus de frères, plus de moines et plus de moniales entre 1910 et 1923. C'est vraiment les gens du village qui ont permis qu'on fait un peu le trait d'union entre les frères et les sœurs. Et voilà, c'est aussi grâce à eux que du coup les sœurs ont pu apprendre ce métier de fromager. Il y a une appartenance à cette histoire, ouais, qui est forte.
Merci de nous avoir fait part de cette belle histoire.
Bah, merci Mathilde d'être venue jusqu'à nous.
Merci Mathilde Debar, c'est la fin de cet épisode de Fromagine, une série spéciale signée Podcastine. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaïco-Echea, Mathilde Leuil et Marion Ruot, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Taïeb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcastine, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.